Bonjour à tous, Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Pour cette 16e émission, nous allons aborder un thème que nous n'avons pas encore couvert, l'amour. Non pas l'amour au sens large, celui qui nous unit à nos proches, mais bien cet amour qui donne des papillons au ventre, qui fait battre le cœur en chamade. Bref, l'amour, l'amour amoureux qui unit deux êtres. Et des êtres, parfois, les cheveux blonds, les cheveux gris, comme le dit cette chanson que nous entendrons un peu plus tard, parce que oui, nous allons causer de l'amour intergénérationnel. En première partie de demi-heure, je reçois Chantal Girard, qui a 20 ans d'écart avec son conjoint. Vous ne serez pas étonnés si je vous dis que c'est elle qui est la plus jeune, une situation qu'on voit couramment, mais il y a de plus en plus de couples où c'est la femme qui est la plus âgée. On aurait bien souhaité recevoir, entre autres, l'un de ces modèles-là, Jeannette Bertrand, qui vit depuis plusieurs années avec un conjoint plus jeune qu'elle, mais sachez que j'ai grand espoir de recevoir Jeannette un jour pour, qui sait, tiens, je vous dis un rêve, peut-être une émission complète. Donc, n'ayant pas d'exemple concret, on a décidé de parler avec quelqu'un qui entend souvent ce genre de témoignage-là dans son bureau de psychothérapeute et thérapeute conjugale et familiale, Jacqueline Arbogast. En deuxième partie, nous allons parler de l'écoute. Et en fait, l'écoute, c'est probablement l'un des succès des couples qui durent. Donc, nous entendrons Mathieu Guénette, que nous avons déjà reçu à l'émission Conseiller d'orientation pour son livre « La recherche d'emploi pour ceux qui se sentent comme des extraterrestres ». Mais cette fois-ci, Mathieu va nous parler de l'écoute. Est-ce qu'on écoute vraiment et surtout, est-ce que notre sens de l'écoute change avec l'âge? Et tout ça avec de la belle musique inspirée par nos thèmes. Et on commence avec « La maladie d'amour » de Michel Sardou.
Elle court, elle court. La maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur. 7 à 77 ans, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris.
Ma première invitée de cette première demi-heure porte le même prénom que moi, Chantal. Pourtant, nous n'avons pas le même âge et elle n'a pas, elle non plus, le même âge que son conjoint. Bonjour Chantal.
Bonjour Chantal.
C'est un plaisir de te recevoir et je te tutoie parce que on se connaît, toi et moi.
Assez bien depuis quelques années, effectivement, depuis 2010.
Ah ben, tu es précise, c'est bien.
Alors, oui.
Allons-y justement avec les chiffres. Dis-nous les faits d'abord. Combien de différences d'âge tu as avec ton conjoint?
20 ans de différence d'âge et ça va faire 16 ans qu'on est ensemble en février.
Wow!
Et 8 ans de mariage.
Écoute, ça serait des beaux chiffres derrière une carte de baseball, ça.
Oui, ça se peut.
Donc, parle-moi quel âge tu avais lorsque tu as rencontré ton dulciné.
En fait, j'étais étudiante, j'étais 18-19 ans. Ça a pris quand même une bonne année avant qu'on puisse passer à une autre étape parce que lui avait des choses à régler avec son ancienne conjointe. Donc, il était marié à cette époque. Il était déjà en processus de passer à une autre étape pour lui dans sa vie. Donc, ça a pris quand même une bonne année. Donc, j'avais 20 ans quand on a commencé vraiment officiellement à se fréquenter.
Donc, toi, tu avais 20 ans et si je suis bonne en mathématiques, lui en avait 40.
Exactement.
Et
deux étapes de vie complètement
oui.
différentes. Et c'est pas mal le reflet de ce qu'est notre relation depuis 16 ans.
D'être
donc,
dans des étapes
de vie.
Mais là, à 20 et 40 ans, c'est ça, c'est vraiment deux étapes de vie. Sur le coup, j'imagine, là, si vous êtes ensemble depuis 16 ans, il t'a charmé?
Eh bien, oui, effectivement. Donc, c'est carrément en fait, de me faire sentir qui je suis et d'accepter telle que je suis, de me faire sentir femme. Donc, c'est principalement la raison, mais aussi le fait de voir l'enfant en lui, l'espèce d'émerveillement, le côté... Moi, j'ai toujours eu comme façon de voir la vie, il faut avoir la capacité de s'émerveiller. Et si on ne perd pas ça, ça fait qu'on peut... Il y a toujours des belles choses qui arrivent et on ne vieillit pas. Donc... Même si on a 80 ans, il faut avoir encore la capacité d'être émerveillé par les petites choses de la vie, d'avoir être capable de retrouver notre enfant en nous puis d'avoir du plaisir et d'aimer cette folie-là.
Donc, tu
Alors,
vois.
Ça, j'ai toujours vu ça en mon conjoint, je le vois encore et c'est ce qui fait, entre autres, qu'on est toujours ensemble.
Mais ceci dit, est-ce que ça t'a fait peur un peu, là? Parce que là, vous aviez carrément, il y avait carrément le double, tu sais, de ton âge.
C'est pas l'âge qui fait que on veut pas être avec cette personne-là. C'est vraiment la façon dont cette personne-là nous fait sentir, dont on se sent. Ce qui fait plus peur, c'est le fait de « Oups, attends un peu, là, t'as des choses à régler. C'était plus à ce niveau-là dans mon cas. » Donc, il y avait des choses à régler qui, si ça c'était pas fait, ça ne pouvait pas fonctionner. Mm-hmm. Mais, essentiellement, l'amour, c'est en fait de croire en l'autre, c'est de faire sentir l'autre comme une personne unique, comme une personne à part entière, une femme. Donc, je voyais pas... C'était pas une question d'âge. On avait la même façon de voir certaines choses, la vie, les valeurs. Mm-hmm. Et ça, c'est encore là. On a encore une belle façon de collaborer, une belle façon de voir les choses, les valeurs de la vie. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est pas nécessairement l'âge. Je te dis pas que c'est pas difficile.
Comment ça a évolué, là, justement, au fil du temps, dans ces 16 ans-là? Est-ce que tu sens que maintenant, la différence, elle est plus marquée?
Je te parlais tantôt d'étapes de vie.
Oui.
C'est les difficultés. Il faut, en fait, se faut que, pour que ça fonctionne, une grande différence d'âge, il faut accepter que l'autre vit une étape de vie différente que la tienne.
Mm-hmm.
Et d'être capable de l'accompagner là-dedans. Là, ce qui se pose comme difficulté, mon conjoint a 56 ans, j'en ai 36. Lui est en train de voir la vie autrement. Donc, il est vers la fin, si je peux dire. C'est pas la fin de sa vie, là, quand même.
Mais j'espère, Chantal, j'ai 50 moins.
Non, mais du fait qu'on ne travaillera plus, le rythme de vie va changer, la retraite, ça, c'est complètement une autre façon de voir les choses. On vieillit, la santé change, l'énergie n'est plus la même. Tout ça, là, cette espèce de le corps parle. Et de mon côté, moi, je vois la vie en avant, puis là, je veux développer des choses, puis moi, je bâtis ma carrière. Mm-hmm. Tandis que lui, sa carrière est sur le point de, tu sais, se terminer, si je peux dire. Je ne dis pas qu'il va arrêter de travailler, là. C'est un grand travailleur. Mais c'est plus à ce niveau-là, des fois, c'est que moi, je comprends pas toujours que la façon où il est rendu totalement. Lui a déjà vécu, où est-ce que je suis?
Oui.
Mais moi, je peux pas toujours comprendre c'est quoi. Puis parfois, c'est très drôle parce que des fois, je me retrouve avec ses amis, on s'en va en moto, et là, ils s'ajasent entre eux, mais ils sont tous rendus à la même place, puis ils parlent de retraite, puis ils parlent de... Puis moi, je suis là, oh mon Dieu, j'ai pas envie de parler de ça! J'ai pas envie de parler de ça, mais bon.
Mais tu as vécu...
On accepte.
Absolument. Puis toi, tu as vécu quelque chose, justement, une étape de vie. Tu es devenue mamie, je crois, par alliance, assez tôt dans ta vie.
Assez tôt, j'avais 24 ans quand j'ai été mamie par alliance. Et là, maintenant, ma belle-fille a 3 enfants. Elle en a un dernier de 2 ans et demi. Et récemment, je vais te faire une anecdote. Il m'a dit « Mamie ». Il me dit « Mamie » parce qu'il parle pas beaucoup. Il est très, très physique. Il parle très peu. Et là, il a sorti « Mamie ». Écoute, ça résonne pas en moi de la même manière que ça va résonner à une vraie mamie.
Ouais.
Moi, c'est comme si... Je trouve ça un peu toujours bizarre. Toujours un peu... je sais pas quoi faire avec ça. Mais en même temps, c'est plus simple. À quelque part, je suis comme sa mamie. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Oui. Il y a quelque chose qui est plus facile dans l'explication, de dire, ben non, c'est pas ta mamie, c'est la nouvelle femme à ton père, ta mamie, c'est beaucoup trop compliqué. Là.
Mm-hmm.
Tu sais, la relation que j'ai avec lui quand même, puis la relation que j'ai avec les autres, ça reste qu'on est très, très proches, puis c'est comme si j'étais une mamie.
Donc, Chantal, en terminant, j'ai envie de te demander... Si deux personnes se rencontrent, ont cet écart d'âge-là et hésitent, quel conseil tu donnerais pour bien profiter de cet émoi-là qui se présente entre deux êtres?
Je te dirais que le temps fait bien les choses. Il y a des expériences de vie qui vont arriver et on va voir la relation va tenir si... À un moment important de ta vie, d'un changement, d'une étape de vie, cette personne-là est capable de comprendre et d'assumer que tu es rendu là. Je pense que c'est vraiment, vraiment plus le temps qui va aider cette personne-là, puis cet amour-là. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister. Les valeurs doivent être les mêmes, comme je disais.
Mm-hmm.
Et facilement, ça peut fonctionner. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut accepter où l'autre est dans sa vie.
Je pense que c'est un conseil extraordinaire et je te souhaite de devenir arrière-mamie.
Non! Wow, je suis pas rendue là! Là, je vais commencer par être maman pour commencer.
Oui, bien Chantal, tiens, je t'offre une chanson de circonstance. Il suffirait de presque rien de Serge Reggiani.
Merci.
Merci beaucoup.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème.
Mais pourquoi faire du cinéma, fillette? Allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire? Vraiment de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime.
Il suffirait de presque rien, de Serge Reggiani. Ma seconde invitée va nous parler du contraire. Qu'est-ce qui se passe quand la femme est plus âgée? Et je pense que Jacqueline Arbogast pourra vraiment nous éclairer sur les défis des relations intergénérationnelles. Bonjour Jacqueline!
Bonjour, comment allez-vous bien?
Ça va très bien. On a eu l'occasion, vous et moi, avant de faire un brin de causette et vous me disiez que vous receviez dans votre bureau là, des femmes qui vivent cette réalité-là d'être la personne qui est la plus âgée.
Oui, tout à fait, effectivement. Et je veux vraiment préciser, il ne s'agit pas de 2, 3 ans ou 5 ans. Pour moi, plus âgé, c'est quand il y a 10 à 15 ans de différence, parce que 2, 3 à 5 ans, ça reste dans la même génération, on va dire. Mais quand on passe 10 ans, on passe une autre génération. Donc, c'est là où on voit la différence, c'est là où ça devient plus compliqué.
Qu'est-ce que vous voyez comme enjeu qui peut être un défi pour ces couples-là, notamment quand c'est la femme qui est plus âgée?
La femme a un souci de rester jeune et de faire moins vieille que son conjoint et de perdre, disons, une partie de charme ou une partie de séduction. Donc, c'est un souci pour cette femme. Par ailleurs, elle peut avoir des réflexions en disant « c'est votre fils ». Quand il y a la différence d'âge, je vois vraiment, ce qui n'est pas toujours très agréable. Et puis, il y a toutes les a priori, vous savez, qu'on a contre les femmes plus âgées avec des hommes plus jeunes. On parle des cougars, ce que j'aime pas du tout comme terme, mais vraiment pas. Et je ne sais pas, bon, je suis d'origine française, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de toute la cabale qu'il y a eu quand Emmanuel Macron est arrivé avec Brigitte,
absolument,
son épouse. Ah, tout ce que ça a pu déchaîner parce qu'elle était plus âgée que lui, j'ai trouvé ça lamentable. Alors que des hommes plus âgés avec des femmes plus jeunes, ça fait presque partie de la norme, on va dire.
Mais dans leur cas, c'est un très grand écart.
Oui, tout à fait. Et ça prouve bien que c'est pas une histoire d'écart qui fait la solidité d'une relation. C'est une histoire de sentiment, d'une part, c'est une histoire de respect, puis c'est une histoire de jeunesse d'esprit. C'est pas l'âge biologique qui est en compte, là. C'est le mode de relation et l'état d'esprit, l'ouverture d'esprit.
Voyez-vous, avant qu'on se parle, vous et moi, j'ai parlé avec quelques femmes qui ont un écart d'âge avec leur conjoint et personne n'a souhaité en témoigner publiquement. Et je pense entre autres à cette dame-là, ils sont ensemble depuis 29 ans et c'est toujours senti très, très, très à l'aise avec cet écart-là d'âge. Effectivement, il est assez minime, c'est 7 ans. Sauf que maintenant, elle en a 69, il en a 62, et elle commence à ressentir plus là, cette différence-là physique, exactement ce que vous disiez d'entrée de jeu.
Est-ce que cette dame vous a expliqué ce qu'elle, sur quoi elle portait sa gêne? Ben, vous parlez du physique, mais qu'est-ce qui dans son physique faisait qu'elle se posait plus la question, par exemple? Ça serait intéressant d'aller voir parce que on a, nous quand même, les femmes, et je vous le disais quand on s'était parlé, on a quand même des atouts et des outils, c'est ça qui est génial, pour s'embellir, pour faire ressortir nos atouts, un joli maquillage qui fait ressortir nos yeux, une teinte d'habit qui nous met notre peau en valeur. Et puis, ça, c'est sur le plan physique, mais aussi sur le plan d'une dynamique sociale. Comment dans sa tête, cette dame se voit? Est-ce qu'elle se voit vieillir et du coup, ça accentue son image? Ou est-ce qu'elle se voit encore jeune et dynamique? Parce que ça joue aussi notre état d'esprit. Et si elle commence à se dire qu'elle est vieille, ben c'est sûr qu'elle va penser que son conjoint est jeune par rapport à elle, alors que c'est toujours le même écart d'âge.
Bien, en fait, dans ce cas-là, c'était une question d'énergie. C'était un couple toujours très, très, très actif, voyage, sac à dos et autres. Et là, 69 ans, mais je lui disais en même temps, ça peut être normal dans la vie là, d'aspirer à un autre type de voyage en vieillissant comme un couple qui n'aurait pas cet écart d'âge-là.
Exactement. Et j'aime bien que vous fassiez cette réflexion parce que ça fait aussi partie des deuils qu'on a à faire. Qu'on soit plus jeune ou plus vieux, la femme, au cours de sa vie, a des deuils à faire. Elle ne peut plus être la petite jeune femme pimpante et fraîche de 20 ans. Elle ne peut plus être la femme dans toute sa splendeur, la femme de 40 ans qui est dans son épanouissement. Elle ne peut plus être séductrice, mais plutôt séduisante. Et il y a des deuils à faire. J'ai plus la même peau, j'ai des rides, et tout ça, on a besoin de vivre avec, de se l'approprier et d'en faire non pas un problème, mais quelque chose qui nous donne une autre dimension. Parce que du coup, eh bien, on a une sagesse, ou bien on a de l'expérience, ou bien on a du recul, ou bien... Vous comprenez qu'il y a besoin de faire tout un travail de transition, j'allais dire, pour le voir non pas comme quelque chose de négatif, lourd, inéluctable, mais comme une évolution. Et chaque âge a ses atouts, chaque âge a ses forces, chaque âge amène quelque chose, si on sait aller chercher, le mettre en valeur. Et je trouve que votre suggestion de dire, mais c'est vrai, on ne fait pas les mêmes choses à 20 ans qu'à 40 ou à 60, mais est-ce qu'on peut trouver des choses à 60 qui nous conviennent à tous les deux et qui seraient plus en lien avec son énergie de ses 69 ans, bien sûr, et ça peut donner des choses très chouettes.
Je serais curieuse aussi de vous entendre une relation comme ça où la femme est plus âgée, mais selon les époques. Et je m'explique, j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions avec autant des hommes plus âgés ou plus jeunes, et je me rends compte que étant une femme de carrière, étant très active, très impliquée, moi j'ai 51 ans, des hommes de mon âge ou surtout plus âgés, parfois qui sont coincés dans une vision ou un rôle de pourvoyeur, on dirait ne se sentaient pas nécessairement de rôle par rapport à moi, alors que des discussions avec des hommes plus jeunes, c'était pas du tout quelque chose qui était dans la perspective du tout, et j'étais curieuse d'avoir un avis professionnel là-dessus.
J'ai besoin d'une précision parce que quand vous dites que les jeunes n'avaient pas du tout cette vision, c'est-à-dire que pour eux, le fait que, par exemple, vous gagnez plus et que vous ayez une plus belle carrière qu'eux ne les choquait pas ou ne leur posait pas de problème, c'est bien ça que vous vouliez dire?
Ben, dans le sens que les hommes plus jeunes, et là, je ne veux pas faire évidemment de généralisation, mais ne se sentaient pas dans un rôle de société de pourvoyeur, ne se sentaient pas cette responsabilité-là.
Oui, alors que les personnes de votre âge ou plus âgées avaient cette idée-là d'être un pourvoyeur.
Oui, donc, oui, c'est ça.
Oui. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part le fait que les générations plus anciennes, on va dire, ont eu cette culture de l'homme qui était l'homme pourvoyeur. Et ça ne s'enlève pas comme ça du jour au lendemain. Ça date depuis des siècles que c'était l'homme qui pourvoyait aux besoins de la famille, donc il en reste des traces. Et les nouvelles générations, heureusement, sont en train de changer cette croyance, mais il a fallu aussi qu'il y ait une évolution au niveau des rôles de la femme, de l'implication de la femme dans la société, des droits de la femme pour Absolument. Que ça puisse se concrétiser. Donc, c'est tout un changement de mentalité. Et comme les générations plus jeunes ont, elles, été baignées plus tôt dans le fait que la femme comme l'homme pouvait avoir des carrières et que c'était plus un critère nécessaire pour donner une valeur à l'homme ou une valeur à la femme, ça aide. Alors que pour les plus anciens, les plus âgés, ben, tout ce travail n'a peut-être pas été encore fait ou n'est peut-être pas encore accepté. Parce que, n'oubliez pas une chose, quand on pensait que l'homme était la personne pourvoyeur, ça lui donnait un rôle, mm-hmm. ça lui donnait une identité, ça lui donnait une fonction. Donc, c'est énorme. Et c'est par là aussi qu'ils se définissaient. Donc, ils ont besoin de se définir autrement. Et c'est tout un travail. Donc, on ne peut pas changer comme ça les choses d'un coup de baguette magique. Ça demande de l'envie. Il faut que les personnes, les hommes aient besoin. Ou pour cet tranchage, les plus jeunes, ils se posent moins la question. Ils en aient envie. Puis qu'ils sachent comment se donner un nouveau rôle qui soit adéquat, qui leur convienne, qui soit en lien avec leurs relations et ainsi de suite. C'est un gros travail.
Jacqueline, rapidement, 10-15 secondes, un conseil pour quelqu'un qui veut vivre un amour intergénérationnel.
Pour l'homme ou pour la femme?
Peu importe.
Écoutez, ce que je dis souvent à mes clients, c'est penser à la règle des 3 R. La règle des 3 R, c'est respect de soi, respect de l'autre et responsabilité. Si vous mettez ça en place, quel que soit votre âge, ça sera bon.
C'est parfait. Et moi, j'ai respect de temps en ce moment, oui. l'émission de radio. Alors, je vous remercie beaucoup, Jacqueline
Avec
Arbogast.
Plaisir.
Je donnerai les références à votre site Internet un peu plus tard dans l'émission.
Merci à vous.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Pour cette deuxième demi-heure d'Au fil du temps, nous allons nous intéresser à l'écoute. Écoute-t-on vraiment et écoute-t-on différemment au fil du temps? Si vous souhaitez d'ailleurs nous écouter, vous savez que nous sommes sur les plateformes de balado-diffusion Spotify, Apple Play Music et Apple Balado, Google Play Music et Apple Balado, et bien sûr, canalem.vuesetvoix.com. Alors, pour boucler ce sujet de l'amour intergénérationnel, avant de recevoir Mathieu Guénette pour parler d'écoute, il venait d'avoir 18 ans de Dalida.
Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire quand il s'est approché de moi. J'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il avait vu au cinéma le blé aux nerfs. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir. sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Par habitude, j'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans.
Il venait d'avoir 18 ans de Dalida. Je sais pas vous, hein, mais moi, on dirait que des chansons comme ça où il y a des âges, je trouve que ça prend tellement une autre perspective quand on les écoute à différents âges de la vie. C'est comme si tout à coup la chanson devenait complètement différente. En tout cas, c'est une petite prise de conscience que je viens de faire comme ça, hors micro, pendant qu'on rejoignait notre prochain invité, Mathieu Guénette. Bonjour Mathieu!
Bonjour Chantal, comment vas-tu?
Ça va très bien. Alors Mathieu, on te reçoit maintenant comme chroniqueur. On a eu le plaisir de te recevoir comme invité il y a quelques semaines là, pour parler de ton livre sur le marché du travail pour les gens qui se sentent un peu extraterrestres.
Mm-hmm.
Et là, on t'a demandé de nous proposer des sujets et tu as choisi pour cette première chronique de nous parler de l'écoute.
Oui, parce que l'écoute, c'est quelque chose qui est très important parce que quand on ne se sent pas écouté, ça va amener des sentiments de solitude, des problèmes de communication, même des problèmes de santé mentale. Et malheureusement, à notre époque, l'écoute est en crise. Les gens ne s'écoutent plus. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très dramatique. Je ne sais pas si toi, Chantal, t'as remarqué ça, comment c'est difficile de trouver des gens qui savent bien écouter.
Ben écoute, justement, je vais te raconter une anecdote. J'ai décidé, à un moment donné, dans un événement, dans une fête, de ne faire qu'écouter les gens. De ne parler, de ne rien dire de moi-même, à moins qu'on me pose une question à laquelle je répondrai, et c'est tout. Écoute, imagine-toi donc que le lendemain, la personne qui m'avait invitée m'a dit « J'ai reçu 3-4 appels de toi. » Les gens m'ont dit « Mais quelle femme extraordinaire!
» c'est vrai que le principe qu'être intéressé, c'est être intéressant.
Mm-hmm.
Puis, ou un autre principe que moi j'aime bien, c'est chercher à comprendre avant de chercher à être compris.
Absolument.
Et à notre époque, là, avec les réseaux sociaux, puis tout ce qu'on voit, les débats, puis tout le monde qui parle de leur point de vue, puis on n'a pas l'impression que les gens prennent le temps de comprendre, d'écouter. Et ça fait ce qu'on appelle des dialogues de sourds. Puis c'est très dommage. Puis, est-ce que tu te doutes un peu pourquoi on a autant de problèmes d'écoute en ce moment?
J'aurais l'impression de penser à une espèce de syndrome d'inattention.
Effectivement, il y a une partie de la réponse qui est ça. Puis, en fait, après 10 secondes, souvent, si on n'a pas été captivé parce que l'autre nous dit, on va tomber dans la lune. Puis, il y a une différence entre écouter puis entendre. Hein, aussi, là, on va entendre l'autre. Puis, il ne faut pas croire, parce que quelqu'un ne parle pas, qui est introverti, que pour autant, il nous écoute. On pense qu'il nous écoute parce qu'il n'est pas en train de nous couper la parole, mais en fait, il est peut-être dans son monde intérieur, puis il attend qu'on ait fini pour faire d'autres choses. Donc, le fait d'être extrêmement sollicité, ça fait en sorte que notre écoute se fatigue. C'est comme une bande passante. À un moment donné, il est saturé. Puis les introvertis, par exemple, on pense qu'ils écoutent bien, mais en fait, souvent, ils ont leur propre discours intérieur. On dit aussi que les gens qui sont très intelligents, ça va valoriser ceux qui n'écoutent pas. Mais souvent, eux, des fois, ils vont... c'est pas assez intéressant. Eux, leur cerveau a besoin de beaucoup de stimulation. Mais des fois aussi, c'est un peu prétentieux de leur part, mais ils vont présumer. Ils pensent qu'ils savent déjà qu'après 2 secondes, ils disent « Ah, ben, je sais ce que tu vas dire ». Mais dans le fond, ils ne savent pas nécessairement. Puis, souvent, on va parler dans l'intention, on va poser une question dans le but d'intervenir là, par la suite. Puis je te dis, toi, Chantal, qu'est-ce que tu comptes faire cet automne? Mais en fait, tu peux me répondre, mais c'est juste pour que je puisse répliquer. Ben moi, en tout cas, cet automne, ce que je vais faire, c'est telle activité. Puis là, on veut se créer un prétexte pour enchaîner avec notre sujet. Puis, et ça, malheureusement, il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que l'écoute est en crise. Puis aussi, les gens qui ont des problèmes d'audition, ben c'est plus dur pour eux d'écouter. Ils finissent, même si c'est physique le problème, ils finissent par être moins à l'écoute à la toute fin. Bref, il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que l'écoute est en crise. C'est dommage parce que c'est important de se sentir écouté, de créer des liens, de pouvoir se rassembler autour d'idées communes puis de se comprendre.
Puis est-ce que tu crois qu'avec l'âge, on écoute mieux ou on écoute moins bien, hormis les problèmes d'audition, là, mais je parle vraiment de maturité.
L'âge, ben, en fait, je dirais que c'est sûr que ça va dépendre d'une personne à l'autre. Si on parle qu'en vieillissant, on devient plus conscient, ce qu'on souhaite, mais c'est pas toujours vrai, hein, mais on est plus mature, puis qu'on est capable de prendre un peu de recul, ben, on pourrait penser que l'écoute va pouvoir se développer. Parce que l'écoute va se développer avec de l'entraînement et de la prise de conscience. On peut espérer, mais c'est sûr que quand on ne se sent pas écouté, ben, on peut avoir de la difficulté à écouter à notre tour. Et quand on est seul longtemps, là, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça ou tu as connu des gens qui ont vécu ça, mais quand on rencontre quelqu'un, on est comme quelqu'un d'affamé là, devant un buffet, là, puis on parle sans arrêt, là, parce que là, enfin, il y a quelqu'un qui est là, qui va m'écouter, puis au lieu de prendre soin de l'autre, ben, on veut qu'on prenne soin de nous. Puis si on est une personne âgée qui ne se fait pas beaucoup écouter, ben, on va avoir de la misère à écouter parce qu'on va chercher surtout à parler.
Ben, tu sais, tout à l'heure, tu as dit quelque chose que je trouve intéressant, que des fois, on prend pour acquis, qu'on sait ce que l'autre va dire.
On présume, oui.
On présume, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il faut réaliser que peut-être la personne, même si on sait ce qu'elle va dire, peut-être qu'elle a simplement besoin de l'exprimer.
Exactement. Je suis totalement d'accord. En fait, la personne a besoin de ventiler. Si elle vit quelque chose de difficile, ben on la laisse s'exprimer. Parce que quand on écoute l'autre, on peut apprendre quelque chose. D'ailleurs, on peut plus apprendre quelque chose en écoutant qu'en parlant. Parce que ce qu'on dit seulement, on le sait déjà. Et en plus, l'autre va avoir un sentiment d'être écouté. Et il y a des solutions, parce que je ne suis pas juste là pour dire « Hey, ça va mal, il y a une crise de l'écoute », mais si on est conscient que notre écoute peut être problématique, ben déjà, savoir qu'on peut s'entraîner à écouter, ça peut être déjà bon. Mais il y a des exercices qu'on peut faire pour améliorer son écoute.
Alors, comment développer son écoute 101, oui. Mathieu Guénette?
En fait, les conseils que je donne sont tirés d'un livre qui s'appelle « You're Not Listening » de Kate Murphy, pour ceux que ça intéresse. J'en ai fait un épisode de podcast des ambitieux qui s'appelle simplement « Écoute », c'est l'épisode 41. Puis, je détaille tout ça. Donc, les premières des choses, c'est d'être conscient que l'écoute, c'est une posture, c'est comme une attitude. C'est actif, c'est différent d'entendre et d'avoir un désir sincère d'écouter l'autre, de se montrer curieux et de dire qu'on peut apprendre quelque chose de l'autre. Et d'accepter de ne pas toujours être en contrôle. Ça va avec le lâcher-prise. Parce que si on laisse l'autre parler, bien, on ne sait pas où il va nous amener. Et ça demande aussi une tolérance à l'ambiguïté, parce que l'autre va peut-être nous amener avec des idées qui ne sont pas cohérentes avec ce que nous, on pense, qui sont en contradiction, et on sait pas, on rentre dans un univers là, où on n'est pas en contrôle de ce qui se passe. Puis d'avoir une attitude aussi, on va parler de neutralité bienveillante, de pas avoir un parti pris. On n'écoute pas en se disant « Ah, est-ce qu'il y a raison ou il y a tort? » On prend un recul, puis on peut à ce moment-là dire « Je l'écoute en n'ayant pas un parti pris que qu'est-ce qui est bien ou pas par rapport à mes propres idées. Savoir poser des bonnes questions, des questions ouvertes. Puis quand l'autre, on le trouve pas intéressant, ben, ça arrive, là, malheureusement, on va être franc entre nous. Mais on peut l'aider à être intéressant en lui posant des questions.
Mm-hmm.
Si je te raconte, mon voisin, il fait telle activité, tu ne connais même pas mon voisin, ben, tu pourrais me dire, ben, toi, Mathieu, comment tu te sens par rapport à ton voisin? Puis là, ça peut être t'amener un thème qui va parler plus de moi que de mon voisin, de comprendre mon intention. Parce qu'il y a toujours deux raisons pourquoi les gens nous parlent. Il y a la bonne raison, en fait, c'est notre intention, puis il y a la réelle raison. Que si je te dis, oh, ça me dérange pas, moi, de ne pas l'avoir eu, le poste auquel j'ai postulé, ben la bonne raison, c'est que je veux montrer comment moi, je suis... J'ai pas de problème avec ça. Comme là, je vais te raconter toute une histoire, mais la réelle raison, c'est que j'ai été humilié, puis je te raconte ça parce que je veux faire bonne figure. Puis c'est d'être capable de détecter ça par notre
justement
écoute.
Justement, Mathieu, je suis curieuse de t'entendre sur, parce que tu sais, on parle intergénérationnel ici à Au fil du temps.
Ouais.
Comment on écoute quand on est, on écoute nos enfants versus quand on écoute nos parents?
Bonne question. Ben, je pense que ce qui est important, c'est quand on parle avec une personne qui n'est pas de notre génération, on n'a pas toujours les mêmes références. Comme moi, par exemple, je suis conseiller d'orientation, tu le sais, ben, tu sais, je suis dans la quarantaine, puis je travaille avec des jeunes de 16 ans, on n'a pas les mêmes références. Puis quand je leur pose des questions, parle-moi de ce que tu veux faire dans la vie, ils ne savent pas quoi répondre. Puis il faut rentrer dans l'univers de l'autre. Puis je dis, ben, c'est quoi tes loisirs? Ben, les jeux vidéo. Puis moi, les jeux vidéo, je suis trop à jour, là. Mais je leur dis...
T'es encore à Tetris, hein?
Oui, Tetris, je connais ça. Mais sinon, je vais dire, mais c'est quoi ce jeu-là? Qu'est-ce que t'aimes de ce jeu-là? Puis, je crée une relation. C'est une personne, une personne qui est plus âgée, ça va être le même principe, de connaître l'univers, puis d'amener l'autre à parler de soi. Et souvent, ça, c'est gagnant. Parce que ce qui est universel, c'est nos valeurs, hein? C'est nos sentiments, c'est nos besoins. C'est sûr que les jeux vidéo qui viennent de sortir sur le marché, ça ne me rejoint pas tellement. C'est plus de ma génération. Mais par contre, ce qu'on vit, le plaisir d'être avec des amis en ligne, ben, le plaisir d'être avec des amis, ça, je peux comprendre ça. Puis ça, je peux connecter avec quelqu'un. C'est d'arriver avec des grands thèmes. Puis un exercice qu'on peut faire, là, c'est quand on a fini une conversation avec quelqu'un, on peut faire un bilan. Après la conversation, on peut se dire, qu'est-ce que j'ai appris sur l'autre? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est quoi son état d'esprit pendant la conversation? Comment je pense que l'autre s'est senti après m'avoir parlé? Et si je suis pas capable de répondre à ces questions-là, ou je suis pas satisfait, c'est peut-être parce que je pourrais mieux écouter. Je pourrais peut-être faire un effort encore plus grand la prochaine fois. Je ne sais pas, je suis trop dur envers moi-même, mais je sais que j'ai peut-être un effort puis essayer de comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Puis, on peut aussi avoir un complice d'écoute. Mettons, au travail. Okay. Puis là, mon complice, il sait que je vais améliorer mon écoute. Mais quand il sent que moi, je suis en train de manquer d'écoute dans la réunion, ben, il pourrait avoir un signal, tu sais, il se gratte le nez. Puis, parce que moi, je ne suis peut-être pas conscient pendant que ça se passe. Peut-être après coup, je vais m'en rendre compte. Puis, peut-être que je suis en train de trop parler. Puis j'aurais l'avantage à mieux écouter. Puis un dernier exercice aussi, que je trouve bien intéressant, ça vient pas du livre, mais j'ai fait ça dans le cadre d'un atelier au travail. C'est ça ressemble un peu à ce que tu as dit au party là, que où tu étais. C'est que tu fais un exercice avec peut-être avec ton conjoint. D'ailleurs, il dit dans les que les conjoints entre eux qui sont longtemps mariés, ils finissent par moins s'écouter parce qu'ils présument ce que l'autre va dire, mais que très souvent, ils se trompent. Puis, mettons qu'on fait ça avec notre conjoint ce soir, vendredi soir. Pendant 5 minutes, pas long 5 minutes, mais pendant 5 minutes, l'autre nous parle et on n'a pas le droit d'intervenir. On l'interrompt pas, on fait juste écouter. Puis on fait pas des signes de tête, là, puis là, genre on fronce les sourcils. On laisse simplement parler, puis après ça, on change de rôle. Et c'est fascinant comme exercice. 5 minutes, ça n'a pas l'air long, mais quand on fait juste écouter quelqu'un, c'est autant fascinant pour la personne qui parle, de ne pas se faire interrompre pendant 5 minutes. Puis, c'est fascinant pour la personne qui écoute, puis de se rendre compte comment la personne finalement, quand elle n'est pas interrompue, là, comment elle va dans, elle va à fond là, dans ce qu'elle a à dire.
Mais Mathieu, oui, tout à fait. On va suggérer aux auditeurs de tenter cet exercice-là ce soir. Puis, si vous avez envie de nous parler de ce que ça fait surgir, vous avez envie de commenter, vous êtes les bienvenus. Vous êtes la matière, justement. On est à l'écoute de vous, ouais, chers auditeurs. Hey, Mathieu, je te remercie. J'étais très contente de t'écouter.
Ah, ben merci. Ben merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien.
On se retrouve une prochaine fois. J'invite nos auditeurs à découvrir ton podcast Les Ambitieux, que j'écoute moi-même avec beaucoup de plaisir.
Ah, génial.
Merci Mathieu, à une prochaine. Alors, on écoute « Écoutez d'où ma peine vient » d'Alain Souchon.
Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de la vie je ne sais rien. Est-ce que c'est le TGV si vite arrivé, ou la paresse de l'express, du temps passé? Est-ce que c'est 87, les chaussons dans la cuisine, ou le pauvre petit 27 de Janis Joplin? Est-ce que c'est long ou court la vie? Est-ce que c'est con? Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de l'amour je ne sais rien. Est-ce que c'est la longue distance et les caresses au long cours, ou est-ce qu'on est pour le parcours? Est-ce que c'est les cloches qui sonnent, les chapeaux king size, ou les petites Paris Hilton à la tequila sunrise? Est-ce que c'est long, court l'amour? Est-ce que c'est con et lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Ce blanc nous regarde avec des yeux drôles. Est-ce qu'une hard rain is gonna fall? Est-ce que c'est long?
D'où ma peine vient, d'Alain Souchon. Le 1er octobre, c'est la journée nationale des aînés et le réseau FADOC que nous avons reçu à cette émission a choisi le bouton argenté comme symbole de cette cause essentielle. Donc, pourquoi le bouton? En fait, c'est pour rappeler les quatre piliers d'une qualité de vie adéquate pour tous les aînés, soit la santé, le bien-être, l'appartenance et la sécurité. Donc, si jamais vous voyez des gens porter un bouton argent, vous saurez que c'est pour souligner là, le 1er octobre, la Journée internationale des aînés. J'avais envie, sur le thème un petit peu là, de l'intergénérationnel, de vous lire un texte que vous avez peut-être vu passer sur Facebook. Alors, je vous le lis. À toutes mes amies féminines de 40, 45, 48, 50, 55, 60, 65 et plus. La plupart d'entre nous traversent la prochaine phase de notre vie. Nous sommes à cet âge où nous voyons ou avons vu des rides apparaître, des cheveux gris et des kilos supplémentaires. La ménopause est arrivée ou est juste en train d'attendre au coin de la rue. On voit la mignonne de 25 ans et on se rappelle que nous aussi, il n'y a pas si longtemps, avions 25. Tout comme elles auront un jour notre âge. Ce qu'elles apportent à la table avec leur jeunesse et leur zeste, nous l'apportons avec notre sagesse et notre expérience. Nous avons élevé des familles, ou pas, géré des ménages, payé les factures, traité des malades, de la tristesse et de tout ce que la vie nous a assigné comme tâche à accomplir. Nous sommes des survivantes. Nous sommes des guerrières dans le calme. Nous sommes des femmes. Telle une belle voiture classique ou un bon vin, même si nos corps ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois, ils portent nos âmes, notre courage et notre force. Nous devons tous entrer dans ce chapitre de nos vies avec humilité, grâce et fierté, et de tout ce que nous avons vécu. On ne devrait jamais se sentir mal à l'idée de vieillir, car c'est un privilège qui est refusé à tant d'autres. Un petit texte comme ça que j'ai vu passer, que j'avais envie de vous lire. Et ma conclusion là-dessus, je vais encore citer Jeannette Bertrand, mais elle a dit « Vieillir, c'est le prix à payer pour ne pas être mort. » Alors, on poursuit avec l'écoute. « Écoute-moi » de Baume Desjardins.
Ça finit aussi vite que ça commençait avec un petit mot. Un tout petit mot. T'es parti aussi vite que t'es arrivé. Là, je suis sur le dos, sur ton dos. Écoute-moi, écoute-moi donc. Je m'ennuie, mais je veux pas te le dire. Au cas où ça serait pris contre moi. Reste avec moi, je te prends pas pour acquis. Attache-toi donc, laisse-toi pas partir. Je m'ennuie de m'ennuyer, amoureux. Je voudrais bien dire non, mais en dedans, y'a ton prénom qui menace de s'enfuir, qui crie pour s'enfuir. Si l'amour est mort, dis-moi que tu m'aimes encore. Écoute-moi, écoute-moi donc. Je m'ennuie mais je veux pas te le dire. Au cas où ça sera pris comme moi. Reste avec moi, je te prends pas pour acquis. Attache-toi donc, laisse-toi pas partir. Je m'ennuie.
Écoute-moi de Baume Desjardins. Merci de nous écouter, chers auditeurs. Je remercie mes invités du jour, Chantal Girard, Jacqueline Arbogast. En fait, si vous cherchez son site internet, c'est arbogast.com. Donc, Jacqueline avant. Merci également à Mathieu Guénette, qu'on retrouve à Les chercheurs de sens, ou encore le podcast Les ambitieux. Merci également à Louis Garon, Maurice Bolduc, Catherine Bourderon, notre dynamique équipe, et on se retrouve la semaine prochaine.